et bienvenue autour de votre grande table. Le renouveau du cinéma au Soudan, il a filmé une aventure singulière, celle de quatre cinéastes empêchés depuis 30 ans de vivre leur passion pour le cinéma. Prix du public et du meilleur documentaire à la dernière Berlinale, Talking About Trees sort en salle en France mercredi prochain. À partir de 12h55, rendez-vous avec le cinéaste Souheib Kasmel Barry, notre invité. Mais d'abord, Marcel Proust, superstar, s'entend jour pour jour après son Goncourt, pas toujours reconnu de son vivant. Pourquoi l'auteur de La Recherche fait-il aujourd'hui l'unanimité? Son œuvre s'est-elle bonifiée avec le temps? Cette question, notre invité, grand spécialiste de Proust, se la pose en clore. Cette gloire universelle qui le fait désigner comme le plus grand écrivain du XXe, à quoi tient-elle? Écrit-il dans son Marcel Proust, croquis d'une épopée qui paraît chez Gallimard. Jean-Yves Tadier est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Son œuvre s'est-elle donc bonifiée avec le temps, effet de mode ou juste retour pour un auteur intemporel? 10 ans de critiques proustiennes réunies dans ce livre, celui de notre invité Jean-Yves Tadier, professeur émérite à la Sorbonne et directeur des collections Folio Classique et Théâtre. Bonjour à vous Jean-Yves Tadier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le prologue de vos croquis d'une épopée, Marcel Proust, raconte ce que fut, est et sera la gloire de Proust. En rassemblant toutes ces réflexions sur l'auteur, est-ce que vous avez, vous, le sentiment d'avoir aussi travaillé à sa gloire?
Je ne sais pas, c'est au lecteur de le dire. J'ai travaillé, oui, sûrement, de temps en temps. C'est ce que j'ai vécu au cours d'une carrière déjà longue, c'est le fait que l'œuvre changeait au fil des années, en effet. Et probablement parce que chacun l'interprète en fonction de son évolution intellectuelle et du développement aussi des sciences humaines et contemporaines, et aussi de la psychanalyse. Tantôt c'est l'histoire, tantôt c'est la linguistique, tantôt c'est la psychologie, tantôt la sociologie qui révèle chez Proust des aspects nouveaux, parce que ce roman de 3000 pages comporte tellement de couches de significations superposées qu'il faut beaucoup de temps pour les développer et qu'elles ne sont pas apparues tout de suite.
Est-ce que vous auriez, vous, accepté d'être son ami? D'ailleurs, est-ce qu'il vous aurait, vous, choisi comme ami, Marcel Proust?
Probablement pas. Je n'appartiens pas à une famille aristocratique, ni peut-être à d'autres communautés qu'il fréquentait aussi. Non, je ne pense pas qu'il m'aurait choisi pour ami. D'ailleurs, il n'avait pas de professeur d'université dans son cercle d'amis. En revanche, très tôt, les plus belles critiques qui étaient faites sur lui, et qui étaient en Allemagne, celles d'Ernst Robert Curtius et de Leo Spitzer, étaient dues à des professeurs d'université. Il a connu d'ailleurs le début des travaux de Curtius, avec lequel il a correspondu. Mais ce ne serait sûrement pas aller plus loin de son côté. Du mien, je n'ai jamais cherché à fréquenter les écrivains, justement impressionné par Contre Sainte-Beuve et l'idée que l'homme n'apprenait rien et que tout était dans l'œuvre. Donc j'aurais certainement pas eu le courage d'aller le voir, mais en même temps, c'était un ami impossible, c'est-à-dire que il a, comme chacun sait, il faisait réveiller les gens à 2h du matin en envoyant un taxi pour demander si Paul Morand ou Jacques de La Cantelle voulaient venir le voir. Ça, à la fin de sa vie. Évidemment, dans sa jeunesse, c'était tout à fait autre chose. C'était un ami extrêmement exigeant, extrêmement jaloux, et un ami, en plus, qui ne croyait pas à l'amitié. Mais en même temps, c'était certainement, comme tous les génies, un personnage absolument fascinant. Sinon, tant de gens ne seraient pas rassemblés autour de lui et n'auraient pas très tôt, dans les années 20, commencé à publier leurs souvenirs, leurs lettres.
Et ça, c'est ce que vous écrivez assez joliment. Si Proust critique l'amitié, il ne critique pas les amis. Proust était quand même un peu snob, très mondain, auto-centré. Il pouvait réveiller un proche à 2h du matin pour un doute, faire une scène pour un désaccord. La liste des choses qu'on pourrait lui reprocher humainement aujourd'hui est un peu longue. Proust est convaincu que du moment qu'on a des relations, tout s'arrange dans la vie. Il était, écrivez-vous aussi, un grand manipulateur. Alors après, le mémoire, la thèse, les préfaces, la direction d'une pléiade, Tchad. Vous avez dû, un peu malgré vous, à votre corps défendant, Jean-Yves Tadier, écrire une biographie. Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'homme sans tomber par la suite dans une lecture biographique de son œuvre? C'est ce que vous évoquiez, c'est un travers que vous aviez condamné hein, dans Contre Sainte-Beuve. Est-ce que vous vous êtes quand même, somme toute, attaché à lui et qu'aujourd'hui, quand vous vous plongez dans la recherche, l'homme apparaît quand même entre les lignes?
Oui, on peut certainement retrouver, quand on fait attention, ce n'est pas indispensable, mais on peut retrouver toutes sortes de traits vécus. On peut même dire, comme il l'a dit lui-même, que tout ce qui est dans la recherche a été vécu. Même des allusions à d'obscurs figurants sont une sorte de carte de visite déposée auprès d'un ami ou une vengeance contre un autre. Tout est vrai, mais en même temps, tout est transfiguré et surtout, tout est complexifié, approfondi. L'histoire, c'est l'apparence. L'anecdote, c'est l'apparence. Et ce qu'il y a de merveilleux chez Proust, c'est ce qu'il rajoute, c'est-à-dire l'approfondissement du sens, la recherche d'une loi philosophique, par exemple, aussi la recherche de la drôlerie, c'est-à-dire qu'il fait... Il met en valeur les traits comiques d'une situation, ce qui n'est pas tellement, finalement, dans l'esprit de la littérature française contemporaine. Il n'est pas une littérature qui fait rire constamment aux éclats, contrairement à la littérature anglaise, par exemple. Proust était d'ailleurs nourri de littérature anglaise. Et puis, il y a la poésie, c'est-à-dire qu'un même trait pourrait être décrit de manière tout à fait réaliste ou naturaliste. Et chez Proust, tout à coup, il est flanqué d'images poétiques qui lui donnent des ailes.
On va écouter, à propos de l'homme qu'il était, les mots de Paul Morand, l'écrivain, extrait d'un documentaire Marcel Proust, portrait souvenir, un documentaire de Roger Stéphane de 62.
Précipité, non, c'était une phrase très chantante, extrêmement longue, qui n'en finissait jamais, pleine d'incidents. Elle ressemblait à une route de montagne qu'on gravissait sans jamais arriver au sommet, pleine d'arguties, d'arborescence, tout ça très fluide, très doux et en même temps très viril. Quand on a fait des portraits de Proust, comme Malaparte par exemple, mais au théâtre, il en fait un personnage faible et efféminé. C'était absolument pas Proust. Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les Anglais appellent « poise », du poids, de l'autorité morale, en même temps beaucoup de courage, vous regardez bien en face, l'air un peu de défi, de D'Artagnan, la tête en arrière. Il était très courageux.
Voilà, est-ce que cette description, ce portrait de Proust vous convient?
Oui, ça reste extrêmement actuel et même très profond. On est presque surpris d'entendre Morand avoir perçu tout cela, lui qui avait tendance à rester plutôt en général à la surface des choses.
On peut peut-être voir ce qui vous rapproche l'un et l'autre, à défaut d'avoir été amis, et ce qui vous sépare en repartant de son fameux questionnaire dont vous publiez une troisième version, remplie par l'auteur en juin 1887. À la question, par exemple, quelle est la couleur que vous préférez, lui répond, celle des yeux de la personne que j'aime. Et vous, Jean-Yves Tadier, que répondriez-vous?
Je répondrais peut-être bleu turquoise.
Quelle fleur trouvez-vous la plus belle?
L'orchidée.
Lui répond, celle dont me parle un charmant poète ou que cueille une jolie main. Quelle couleur d'yeux et de cheveux préférez-vous?
Tout, en fait. Je crois que je n'en préfère aucune. Enfin, les couleurs, on en a déjà parlé, mais ça vaut aussi pour les yeux. Ah. Les cheveux, ça m'est tout à fait indifférent.
Et vous vous souvenez de sa réponse à lui, celle de Marcel Proust
dans... Alors lui, dans ce questionnaire, contrairement aux deux autres qui ont une question, il esquive constamment une réponse précise, comme s'il ne voulait pas se livrer.
Quelle couleur d'yeux et de cheveux préférez-vous? Là, il répond, on aime toujours mieux le plat qu'on mange.
Oui, alors c'est une curieuse synesthésie, une allusion à la gastronomie, lui qui mangeait très peu d'ailleurs, et très peu de mets, très peu de plats, c'est assez surprenant de le voir dire ça tout à coup.
Question 8, quelle est votre préoccupation préférée? Proust répond, aimer. Question 9, quel délassement vous est le plus agréable? Il répond, lire. Et question 7, je vous la pose Jean-Yves Tadier, quel vice détestez-vous le plus?
Quel vice La cruauté, je pense.
Il répond, l'étroitesse d'esprit. Et vous dites, vous annotez à côté, c'est très proustien.
Oui, effectivement, c'est absolument. C'est-à-dire que s'il y a bien un esprit qui n'est pas étroit, c'est le sien. C'est même ce qui caractérise son œuvre, c'est le fait qu'il embrasse tant de choses, même opposées.
Mmh. Vous supportez, vous, la compagnie des amis de Proust, ceux d'aujourd'hui, où vous ne partagez pas votre passion, Jean-Yves Tadié ?
Si, si, donc je les supporte d'autant plus que je suis vice-président de la Société des Amis de Marcel Proust et je les trouve infiniment sympathiques et même émouvants parfois. Je ne vais pas toujours jusqu'aux extrêmes auxquels porte le culte proustien d'ailleurs. J'essaie tout de même de me garder des zones où je m'occupe d'autre chose.
Oui, ça répond à la question d'ouverture de cette émission hein, sur la gloire aujourd'hui qui est rendue à Marcel Proust. Est-ce que vous avez parfois le sentiment, depuis toutes ces années que vous travaillez sur l'œuvre de Marcel Proust, sur sa recherche, est-ce que vous avez le sentiment parfois de vous répéter ou de toujours découvrir de nouvelles
choses? Non, j'ai pas le sentiment de me répéter. Là encore, c'est au lecteur de dire si.
Mais vous, dans vos vos recherches, mais, parce que vous cherchez pour trouver.
Je cherche toujours des choses nouvelles. Quand j'écris quelque chose sur Proust, je cherche à ressentir une sorte de déclic, d'inspiration qui me vient en me disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à trouver. Et d'ailleurs, dans les essais qui ne sont pas de moi et qui paraissent presque tous les jours, on voit souvent des aspects nouveaux traités. En partie à cause de l'apport de d'autres disciplines. Si vous parlez de médecine ou de science, vous avez tout de suite une sorte de cadre qui vous permet de poser d'autres questions à l'œuvre qui répond toujours.
On peut en revenir quand même à la manière dont il a traversé le temps, ce qu'on a découvert de lui et redécouvert avec vous, notamment Jean-Yves Tadié. Hein. Après 1930, c'est moins l'oubli que l'occultation, écrivez-vous. Il est aux antipodes du goût de l'époque qui mêle écriture et engagement. Ce n'est pas qu'on le cache, on le snob, Proust.
Oui, il passe de mode, tout simplement, comme beaucoup de grands écrivains après leur mort, d'ailleurs. Il y a quelques années où ils se survivent. Pour Proust, ça correspond à la publication de la partie posthume de La Recherche du Temps Perdu. Il est mort en 22, je l'ai retrouvé par ailleurs en 27, et c'est à partir de 30, 35. Son biographe, Léon Pierre Quint, le premier biographe de Proust, écrit un texte pour montrer que la jeunesse ne s'intéresse plus à Proust et qu'il s'est complètement éloigné. Et on voit que la génération littéraire qui arrive en quelque sorte au pouvoir dans les années 30, celle de Malraux, puis de Sartre ou de Camus, Camus étant mis à part d'ailleurs, ne s'intéresse plus à Proust.
Vous rencontrez son œuvre dans un moment charnière pour elle et pour vous, du coup, c'est un coup de foudre que vous racontez quand vous êtes chez les Jésuites. À 16 ans, quand votre professeur vous lit Proust, cette lecture à voix haute fut comme une illumination, racontez-vous. Mais le ton ironique qu'il employa, ce professeur, rappelle que dans les années 50, Proust n'était pas le monstre sacré d'aujourd'hui. Il était un auteur déjà passé de mode depuis 20 ans. Petit à petit, après cette période-là, il va reprendre, lui et son œuvre, un peu du poil de la bête. Peu après, la nouvelle critique s'est emparée de lui. Proust, écrivez-vous, est soudain apparu moderne. Comment? Pourquoi, Jean-Yves Tadié?
Mais d'abord parce que des auteurs, justement, modernes s'intéressaient de nouveau à lui, écrivaient lui, sur lui, même des articles tout à fait fondateurs, comme Michel Butor ou Nathalie Sarraute, par exemple. Et les recherches formalistes du nouveau roman mettaient en valeur aussi les extraordinaires recherches techniques opérées par Proust dans À la recherche du temps perdu, et même dans les articles critiques ou dans les gestes antérieurs. Et il y avait une sorte de coïncidence entre cette nouvelle époque et cette œuvre déjà un peu ancienne.
On va écouter à ce sujet les mots d'un certain monsieur Mauriac. Pourquoi Proust a-t-il retrouvé de la vigueur et de la vitalité dans l'esprit des lecteurs et des chercheurs?
Proust, lui, nous a montré que l'on peut faire autre chose que du Balzac et autre chose que du roman psychologique traditionnel. Que peut-on faire? Eh bien, on peut redécouvrir un monde, tout ce monde auquel le jeune Proust avait été mêlé, au milieu duquel il avait souffert, car il était un tendre et car il était un snob. Eh bien, il a retrouvé au-dedans de lui, et cela par des moyens qu'il nous a expliqués, comment il a redécouvert ce monde enseveli au-dedans de lui.
Voilà, il a aussi inventé, renouvelé les formes littéraires, hein, Marcel Proust. On semble lui être reconnaissant de cela, Jean-Yves Tadié.
Mais je pense qu'il n'y a pas de grand écrivain sans un travail sur les formes. On n'est pas écrivain parce qu'on a quelque chose à raconter. Tout le monde a quelque chose à raconter, malheureusement, peut-être, parfois. Alors qu'il faut savoir comment le raconter, par quels moyens. Et la recherche sur les formes, c'est le début de la création littéraire.
Et vous montrez notamment comment il détruit le personnage de l'intérieur, comment il bouleverse l'architecture de la forme romanesque, avec notamment ce rêve d'une structure close.
Oui, c'est extraordinaire, c'est que ces 3000 pages ne tiennent que parce que le début et la fin se referment l'un sur l'autre et qu'ensuite il y a tout un système de retour de thème qu'il avait admiré chez Richard Wagner d'ailleurs, qui sont assemblés avec beaucoup de subtilité et beaucoup de force. Et ensuite il y a le fait que tout est mis en perspective de manière très spéciale, c'est-à-dire qu'un peu comme à la même époque en Europe, chez Pirandello, par exemple, tout est soumis au point de vue, on n'a jamais de vérité sur les êtres. Tout est relatif. Il a été séduit par le mot relativité, bien sûr, son système n'a rien à voir avec celui d'Einstein, mais il y a tout de même quelque chose dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité objective, et que chaque personnage, chaque être, a son point de vue sur le monde, ce qui est à la fois troublant, mais en même temps très consolant.
Et vous montrez comment Proust a voulu construire son œuvre comme une cathédrale, ce sont vos mots Jean-Yves Tadié, mais il en a bouleversé l'ordre par l'introduction de détails, par les accidents de la genèse et sa lenteur, par les jeux de la narration, par les questions sans réponse. Vous montrez aussi sa proximité avec les peintres, la manière dont il a fait entrer tous les arts dans ses livres, décloisonnant la littérature. Il est, dites-vous, le dernier des encyclopédistes qui, après lui, parlera ainsi de tout.
En effet, c'est une question que je pose, peut-être que dans certains auteurs étrangers du XXe siècle, chez Thomas Mann, chez Musil, vous trouveriez des éléments de ressemblance, ou chez, bien sûr, Joyce. Mais maintenant, de nos jours, nous avons abandonné dans les courts récits qui sont publiés le plus souvent, et souvent aussi à caractère très autobiographique, nous avons abandonné cette volonté de sacrifier sa vie, c'est-à-dire 20 ans ou 30 ans d'existence à l'époque pour construire une œuvre totale.
France Culture, il est presque midi 20 avec notre invité Jean-Yves Tadié.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Jean-Yves Tadié, grand spécialiste de Proust à qui vous consacrez ce mois-ci Marcel Proust, croquis d'une épopée. Lui, il parlait d'esquisses hein, pour ses cahiers de brouillon. On parlait de l'influence et de l'importance des arts dans ses livres et dans son écriture. Vous, vous parlez de croquis. C'est un tableau inachevé, cette recherche,
non,
ou son portrait?
Non, en effet, ça commence par des esquisses, puisqu'il recouvre ses cahiers de brouillon, de nouvelles versions successives, et quand ensuite il donne à dactylographier, il corrige encore la dactylographie, et ensuite, sur épreuve, il compose jusqu'à 5 ou 6 jeux d'épreuve avec de nouvelles corrections, ce qui montre bien que le point de départ est toujours, pour lui, insuffisant, même si nous, il nous aurait contenté parfaitement et qu'on aurait déjà trouvé ça très bien, lui, il sent toujours le fait d'aller plus loin. D'où le mot d'esquisse qu'il emprunte à la peinture. Il dit, je montrais quelques esquisses et personne n'y comprit rien dans le temps retrouvé. C'est un peu ça. Ces premiers articles, qui sont des fragments de l'œuvre future, ne sont pas compris dans toute leur profondeur. Alors à partir de là, l'esquisse devient tout de même une œuvre terminée, en gros. Il y a, bien sûr, on peut pas nier que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait apporté des corrections à ce qui va de la prisonnière jusqu'au temps retrouvé. Il faut rappeler que le reste a été publié et corrigé de son vivant. Et certainement, il aurait pu faire des corrections de détails, mais tout est déjà là. Et je considère son œuvre comme parfaitement achevée Il y a quelques petites incongruités, comme de personnages qui reparaissent alors qu'ils sont déjà morts, mais c'est des petites choses qu'on trouve aussi chez Balzac et qui peuvent se corriger aisément dans l'esprit du lecteur. Mais pour le reste, pour moi, c'est un monument aussi achevé qu'en effet une cathédrale.
Mais alors pourquoi pour vous ce mot de croquis d'une épopée ? C'est-à-dire que vous, l'exégète, vous n'êtes pas encore sûr d'en avoir fait le tour ?
Je l'ai emprunté à un historien que j'ai toujours beaucoup aimé, bien qu'il ne soit pas tellement à la mode ni au premier plan, qui est Le Nôtre, l'auteur de La Petite Histoire, qui s'intéressait des détails en apparence de la grande histoire, ce qui annonçait d'ailleurs une certaine histoire contemporaine qui pourtant ne reconnaît pas comme son ancêtre, et son Napoléon croquis d'une épopée donne des éclairs de personnages en apparence secondaire ou d'événements en apparence fortuits, mais qui éclairent considérablement l'épopée napoléonienne. Alors j'ai voulu à la fois faire allusion à ce livre un peu oublié, mais aussi à montrer que À la recherche de l'âme perdue était pour moi une épopée. Qu'est-ce qu'une épopée ? C'est un grand chant lyrique où on voit un héros accomplir un parcours initiatique en affrontant les dieux. Qu'est-ce que les dieux proustiens ? Ce n'est plus le dieu de l'Évangile ou de la Bible, mais ou du Coran, mais c'est en réalité les grandes valeurs universelles, les grands événements historiques comme par exemple l'affaire Dreyfus et la guerre. Et j'ai ainsi, vous trouvez dans ce livre, une étude sur Pompéi, où je montre cette extraordinaire méditation sur la fin du monde, qui malheureusement redevient très actuelle maintenant. Pour Proust, la fin du monde, c'était les bombardements sur Paris et la grande boucherie de la guerre de 14. Et ensuite, ce sera la terreur atomique et maintenant, c'est la terreur climatique. C'est en cela un précurseur. Réfléchissant sur cette ville engloutie qui est Pompéi, qui rêvait une autre ville qui s'appelle Sodome, et qu'on trouve dans la Bible, Sodome et Gomorre, eh bien, il y a une extraordinaire réflexion sur la fin du monde. Et c'est là qu'il y a toujours chez Proust quelque chose pour les lecteurs d'aujourd'hui. Sous les apparences d'une histoire dépassée, de duchesse, de marquise, d'esthète, il y a aussi cela.
C'est bien plus qu'une œuvre psychologique.
C'est beaucoup plus qu'une œuvre
psychologique.
En plus, c'est une œuvre de revendication, notamment au propos de Sodome.
Le Temps retrouvé, c'est un film franco-italo-portugais réalisé par Raoul Ruiz d'après le roman éponyme de Marcel Proust, sorti en 99. On en écoute un extrait.
Je me dis que les femmes qu'on n'aime plus et qu'on revoit après des années, entre elles et nous, il y a la mort. C'est comme si elle n'était plus de ce monde, puisque notre amour n'existe plus.
Vous voulez dire que je suis morte ?
Non. Non, je pense seulement à toutes ces questions qui me torturaient et qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à mes yeux.
Par exemple ?
Le soir où je vous ai surprise aux Champs-Élysées, marchant à côté d'un jeune homme, si vous saviez à quel point ça m'a rendu malheureux. Je me disais, c'est fini, je ne la verrai plus jamais.
Je crois me souvenir.
Non, 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 ne cherchez pas, ça n'en vaut plus la peine. C'est ça qui est terrible. C'est que le chagrin, et on peut en mourir, ne laisse aucune trace.
Cette peinture des sentiments, elle prend quand même une place importante aussi dans cette œuvre de Marcel Proust. Vous déclinez aussi dans ces croquis d'une épopée les motifs proustiens les plus importants. Ça va de la mer au jardin, de l'art à Versailles. On évoquait sa proximité avec les peintres. Récemment, avec Catherine Meurice, la dessinatrice, on montrait l'amitié entre un Dumas et un Delacroix. En ce moment, on peut voir au musée d'Orsay une exposition sur Vispense, critique d'art, les écrivains et la peinture. Quelle était la relation qu'il entretenait réellement, Marcel Proust, avec les peintres ? Est-ce que c'était un exercice d'admiration ? Est-ce qu'il aurait voulu, pu lui-même peindre ? Est-ce qu'il cherchait simplement à le faire avec ses mots et ça lui suffisait ?
Je pense qu'il voulait faire entrer tous les arts dans son roman. C'est un objectif qu'on trouve aussi en poésie à partir de Baudelaire. Et il avait des amis peintres, un certain nombre, plus qu'on ne croit, mais sa grande admiration était pour des peintres du passé, dont certains moins connus comme aujourd'hui, comme celui qu'il estimait le plus, admirait le plus, et qui était Vermeer de Delft. Donc, il ne connaît pas tous les peintres, mais il en choisit quelques-uns. Il y a Rembrandt, il y a Vermeer, il y a les impressionnistes, notamment Monet et Renoir. Et à partir de là, il édifie un personnage imaginaire qui les synthétise tous, qui s'appelle Elstir. Donc, il y a à la fois des textes sur la peinture et sur les peintres, et il y a en même temps un seul personnage d'artiste qui est Elstir, et c'est la même chose pour la musique avec Vinteuil, et la même chose pour la littérature avec Bergotte. Un grand personnage symbolique et en même temps une connaissance de tout le reste.
C'était peut-être aussi un écrivain cinéphile avant l'heure. Hein. En tout cas, son œuvre a été souvent très joliment adaptée, comme avec ce film de Raoul Ruiz. Elle produit énormément d'images hein, quand on lit
oui,
la recherche.
Oui, c'est vrai, mais peut-être que les films les plus proustiens ne sont pas ceux qui ont été tournés à partir de son œuvre. C'est peut-être Amarcord de Fellini ou peut-être Visconti, justement, par exemple Mort à Venise.
Son rapport à la presse, on terminera là-dessus, Jean-Yves Tadi, il a collaboré à presque toutes les rubriques des magazines, de la chronique mondaine aux faits divers. Il aurait préféré un journal sans journaliste. Quel rapport avec la critique littéraire qui a longtemps eu la dent dure envers lui? Est-ce qu'elle s'est finalement retournée et a fini par le soutenir, notamment à l'occasion de ce Goncourt qu'il a reçu le 10 décembre 1919, il y a 100 ans exactement?
Non, alors au contraire, comme le dossier de critique publié par Thierry Lagesse et Champion le montre, la critique littéraire des quotidiens, nombreux à l'époque, l'a complètement accablé. Comment avoir donné ce prix à un malade, à un homosexuel, à un juif, à un homme trop riche, à un vieux, alors qu'on pouvait le donner à un chef-d'œuvre qui était Les Croix de Bois de Dorgelès.
Merci beaucoup à vous, Jean-Yves Tadié, à l'occasion des 100 ans donc de ce Goncourt attribué à Marcel Proust. Plaisir de vous recevoir autour de ce livre, Croquis d'une épopée, qui paraît chez Gallimard. Vous annoncez aussi le nom de la lauréate du prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2020. Il s'agit d'Emma Becker pour son livre La Maison, paru chez Flammarion. Après 2 mois de lecture et plus d'une vingtaine de rencontres organisées dans toute la France avec les auteurs de la sélection, elle a donc obtenu ce prix qui lui a été décerné par un jury étudiant. Voilà, c'est la lauréate de cette 7e édition du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Le prix lui sera remis en main propre, ce sera en janvier à Paris.